L'association Jour de fête de Pasteur à la Milletrie et le Dr Gérard Sima sont très heureux de vous accueillir dans le cadre des conférences des Jeudis de Pasteur. Il n'est pas très habituel de commencer une séance par des remerciements, mais dans le cas présent, nous le ferons pour honorer toutes celles et tous ceux sans qui ce cycle de 8 conférences n'aurait pas vu le jour. Pour bien commencer cette soirée, n'hésitons pas à donner la parole à notre cher président de l'association Jour de fête de Pasteur à la Milletrie, j'ai nommé Renaud Bègue.
Bon, il me surprendra tout le temps, monsieur Simat. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette première conférence des Jeudis de Pasteur. Au nom de la direction générale du CHU de Poitiers et des membres de l'association qu'on a citée tout à l'heure, je vous souhaite la bienvenue. Vous verrez, la conférence est la première, mais c'est un cycle très relevé. Je voudrais simplement dire quelques mots pour resituer le contexte dans lequel interviennent ces conférences, que vous ne connaissez peut-être pas. En juin 2011, une page importante de l'histoire des hôpitaux de Poitiers va se tourner. L'hôpital gériatrique Louis Pasteur, que vous connaissez certainement, bien sûr, situé en centre-ville, va migrer vers le site de la Milletrie, en portant avec lui de nombreux souvenirs depuis l'année 1706 où les premières maisons hospitalières se sont créées. Sur le site de Pasteur, alors sur le site de la Milletrie, cette opportunité est un projet médical de regroupement de la médecine gériatrique. Sur le site de Pasteur, par contre, ce site deviendra un quartier entre Pont-Neuf et Pont-Saint-Cyprien, dans lequel vont, au travers différentes opérations, vont se côtoyer à la fois des familles et avec des enfants, avec des étudiants, puisque le Crous va étendre sa capacité de la cité internationale, Michel Foucault, et puis aussi des personnes âgées valides, je veux dire, qui seront dans des structures, on va dire, classiquement de maisons de retraite. Parce que ce site demeurera quand même si le gestionnaire n'est plus le CHU de Poitiers, ce site sera maintenu comme un site d'hébergement de personnes âgées. Deux opérateurs, la ville de Poitiers et un opérateur privé, s'organiseront. Il y aura environ 160 résidents sur ce site. Donc, vous voyez, toujours la dimension. Mais ce sera un quartier entre Pont-Neuf et Pont-Saint-Cyprien. La meilleure preuve, c'est que les voiries intérieures vont prendre des noms, hein, permettant un petit peu l'intégration un peu plus facilement dans la ville. Les murs vont peut-être tomber, certains, il n'en reste plus beaucoup, mais il en reste encore du côté de la rue Pasteur. Les grillages, assurément, vont tomber, puisqu'on sera dans le domaine public de la ville. Alors, la direction générale du CHU de Poitiers et l'association que je représente ce soir ont voulu porter témoignage sur l'histoire de ce site, de ces trois siècles d'histoire, et raconter un petit peu l'histoire de ceux qui ont vécu, travaillé, voire souffert sur ce site. Rappelons simplement que la psychiatrie poitevine s'est certainement constituée sur le site de Pasteur. Rappelons que l'évolution de la prise en charge des personnes âgées, dépendantes et malades s'est aussi développée sur le site de Pasteur, avant de migrer définitivement sur le site de la Milletterie. C'est cette partie d'histoire de ces trois siècles d'un site qui a été, je vous disais, depuis 1706 au service des plus démunis, des plus fragiles et les plus vulnérables de notre société. Donc, porter témoignage au travers d'un devoir d'histoire. Ce que l'on a choisi, c'est, alors peut-être avez-vous participé cet été, on a commencé en mai-juin 2010, différentes manifestations jusqu'à cette remontée en juin 2010. Peut-être avez-vous participé à ce qu'on a appelé le Poitiers-Plage à Pasteur, qui était certes un côté convivial, festif, familial, mais qui était pour nous une première opération de communication et d'emmener ceux qui le désiraient dans une balade commentée de l'histoire de ce site au travers l'histoire des bâtiments. On va continuer avec la publication d'un livre sous la signature de Gérard Simat sur 300 ans au service des malades, l'histoire de Pasteur. Je peux vous en montrer la jaquette si vous voyez un peu de loin, mais ça sera ce livre, un très beau livre de 160 pages. On vous a remis, si vous avez la volonté d'y souscrire dès à présent, eh bien, n'hésitez pas. On a continué déjà avec, au travers une exposition lourde qu'on a réalisée avec nos partenaires Mendès France, qui est actuellement sur l'histoire de ce site, mais pas les trois siècles d'histoire hospitalière simplement, qui remontent aussi à l'Antiquité, tout comme nos conférences vont de l'Antiquité à nos jours. Exposition qui est actuellement dans le hall d'entrée de l'hôpital Jean-Bernard, une très belle exposition, je vous invite à venir la voir, c'est vraiment une très très belle exposition faite par Mendès France et puis le service communication du CHU et puis les membres de l'association. Et puis ce cycle de conférences qu'on a voulu, huit conférences qui vont nous amener jusqu'au mois de juin 2010 sur des thèmes que vous avez aussi entre les mains, qui aborderont bien sûr à la fois la période antique, mais aussi la folie à Poitiers, l'architecture du grand âge, les problèmes d'éthique, etc., etc. Voilà, et la dernière opération que nous, on voudra très symbolique, se déroulera au mois de juin 2010 avec la remontée un petit peu en procession avec, j'espère, le corps médical accompagnera fortement cette procession, la remontée de la statue de Saint-Michel, c'est la seule qui nous reste sur le site de toute façon, donc on la remontera symboliquement en passage de témoin sur le site de la Milletterie, et puis le site, eh bien, je vous disais, deviendra un quartier entre Pont-Neuf et Saint-Cyprien, et le CHU de Poitiers se développera dans son pôle gériatrie sur la Milletterie. Alors, je voulais compléter quand même les remerciements, parce que je me suis aperçu que je n'avais pas donné la bonne information à M. Simat. Oui, je suis comme ça, moi. Je me réserve toujours des petites choses. Remercier les services de l'État, les services de la DRAC, qui nous soutiennent financièrement et moralement, surtout financièrement, sur cette série de conférences, ainsi que l'hôpital Henri Laborie, qui nous soutient aussi moralement et financièrement. Merci et passez une bonne soirée.
Les organisateurs ont le grand plaisir d'accueillir pour cette première conférence Jean Yernard, professeur d'histoire ancienne à l'université de Poitiers. Âgé aujourd'hui de 66 ans, il a commencé sa carrière comme assistant d'histoire ancienne à l'université de Poitiers en novembre 1968. Il est devenu professeur d'histoire ancienne à l'université de Poitiers depuis le 1er octobre 1988. Il est ancien président de la Société française de numismatique et ancien président de la Société des antiquaires de l'Ouest. Au niveau recherche, il est rattaché principalement à l'ERMA, Hellénisation et Romanisation dans le monde antique, à Poitiers. Et il est membre associé du Géricault de Poitiers et d'Ausonius de Bordeaux. Auteur de plus de 130 références bibliographiques, Jean Yernard s'est particulièrement penché sur les monnaies de la période gallo-romaine. Cette période, rappelons-le, va de moins 52 avant Jésus-Christ à l'an 406. Il nous livre aujourd'hui ses recherches et ses réflexions sur ce site extraordinaire entre Pont-Neuf et Pont-Saint-Cyprien, sur la rive droite du Clain, ainsi que sur les alentours immédiats de ces 7 hectares, eux aussi très riches d'histoire. Notre histoire.
Ça marche normalement. Vous m'entendez? Bon, je vais vous présenter en amont, aux origines de l'histoire, ce site, ce que l'on en sait. Alors, ce n'est pas la partie la plus abondante et la plus, peut-être la plus intéressante, parce que c'est surtout le Moyen-Âge et puis la suite qui offre matière à de longs développements. Ce site, au cours des siècles, si je peux me permettre d'évoquer cette histoire rapidement en commettant sans doute un certain nombre d'erreurs, ce site a surtout été marqué par d'abord la vie monastique avec les abbayes successives, hein, une abbaye bénédictine affiliée ensuite à Cluny, une des grandes abbayes, hein, c'est la première abbaye clunisienne de Poitiers, ensuite Montier-Neuf, hein, Neuf, le Moutier-Neuf à cause de Saint-Cyprien, hein, qui... et ensuite des bénédictins aussi de la congrégation de Saint-Maur, c'est un des hauts lieux de la vie intellectuelle aussi à Poitiers, pas seulement de la vie spirituelle, puis des dominicains, et puis un petit changement avec un jardin botanique, ce qui explique d'ailleurs plantation de... Le nom m'échappe, ça y est, j'ai 66 ans. Pour les vers à soie.
La magnanerie.
Oui, mais du mûrier, voilà. Murier. D'où la présence d'une magnanerie. Ensuite, une caserne, là, c'est moins spirituel. Et puis ensuite, un établissement, un hôpital. Donc, c'est un lieu qui a toujours eu une fonction sociale, une fonction au service des autres, puisqu'au fond, même les moines, on peut dire que, hein, dans nos sociétés... en partie déchristianisée, on a oublié ça, mais prier pour les autres, c'est comme soigner les autres, c'est la même chose. Donc il y a cette fonction-là, hein. Les militaires, je ne sais pas.
Mais c'était qu'une petite partie. Ils sont restés 9 ans.
Ils sont restés 9 ans, voilà. Et donc, dans l'Antiquité, peut-être va-t-on retrouver ce fil directeur, hein. Dans l'Antiquité, eh bien, le terrain, il n'est pas vierge du tout, je vais vous le montrer, mais... on n'est pas aux origines de la ville de Poitiers, hein. On est plutôt... Donc, c'est un suburbium, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la ville, nous sommes autour, nous sommes dans la banlieue, nous sommes en dehors de la ville. Alors, je vais vous présenter, ça sera peut-être un peu décousu, parce que je comptais faire venir le responsable des fouilles les plus récentes, qui ont eu lieu en 2008, si je me souviens bien, mais il est pris par toutes sortes d'activités loin de chez nous, d'ailleurs, en ce moment. Et il m'a passé son PowerPoint. Donc, j'ai moi-même réalisé un certain nombre de documents et de plans parce que je vais être plus historien, topographe, géographe qu'archéologue. Je placerai la documentation archéologique en deuxième partie. Je ferai un commentaire, non pas du tout adapté à mon public, mais susceptible d'être... Enfin, j'entrerai pas dans le détail des murs et des couches. Hein. Bon, voilà. Mais auparavant, je vais donc évoquer le début de la présence humaine sur ce site. Bon, ce n'est pas la préhistoire. Il n'y a pas de site, il n'y a pas de présence dite préhistorique. Il n'y a même pas de présence proto-historique, c'est-à-dire de présence celtique à notre connaissance. Je voudrais l'évoquer tout de suite parce qu'on va être amené à en reparler. Il y avait une source à Saint-Cyprien, hein, une source qui a disparu. Alors, dès qu'on parle des sources, la source Saint-Cyprien, hein, qui se trouvait pas loin du pont Saint-Cyprien et qui était d'ailleurs accessible au XVIIe siècle, ça se voit sur les gravures de la collection Guénière, on y accédait par l'extérieur, c'était dans l'enceinte de l'abbaye, et il y avait une arcade, et la source coulait, et elle s'écoulait vers le Clain par une canalisation à l'air libre. Et donc, quand on parle de source, évidemment, le spécialiste d'antiquité a la puce à l'oreille, parce que je reviendrai sur les hypothèses que l'on peut émettre à ce propos. Donc, alors, je vais passer tout de suite à la documentation. Ah. Alors d'abord, je présente un plan, un croquis de Poitiers dans l'Antiquité pour situer... Alors, si je me déplace, je vais perdre le micro. Enfin, je pense que vous allez peut-être pouvoir m'entendre quand même.
Non.
Il est un peu lourd, mais...
Merci. Non. Voilà, merci. Donc là, vous avez la présentation du site. Vous êtes, la plupart d'entre vous sont des Poitevins et connaissent la topographie de Poitiers. Ici, c'est le Poitiers. Alors, c'est le Poitiers, c'est le centre-ville d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais enfant, le centre-ville, c'était là. Mais maintenant, quand on est près du pont Saint-Cyprien, on est encore dans le centre-ville, ce qui fait que je suis évidemment complètement perdu. Mais ici, vous avez donc ce promontoire qui constituait ce que César appelait un oppidum, hein, ce promontoire qui a été le fait de la nature et non pas des hommes, qui a été creusé par deux rivières, le Clain, et la Boivre, qui se rencontre ici, à la porte de Paris. Il faut avoir de l'imagination pour... retrouver ces rivières. Enfin, le Clain, oui, mais la Boivre, c'est difficile. Enfin, se trouve. Et puis, il y a, bien entendu, vous le savez, ce pédoncule étroit ici, avec le quartier de la Tranchée, hein, qui faisait, à l'époque des Gaulois, des Pictons, de ce site un endroit assez difficile à prendre. En dehors, alors, la ville romaine, la ville gauloise, elle est difficile à cerner, mais il y en avait une, c'est sûr. La ville romaine s'est étendue sur cette superficie. Alors, ce que j'ai matérialisé ici par ces tiretés et par cette hachure horizontale, c'est en gros la ville romaine du Haut Empire, la ville ouverte. Et puis, j'ai représenté ici l'enceinte, parce que dans la basse antiquité, la ville s'est renfermée, mais à Poitiers, pas tant que ça. L'enceinte tardive, c'est-à-dire de la fin du IIIe siècle et du début du IVe siècle, dans laquelle... La ville s'est retirée en partie. Il y avait des gens qui sont restés à l'extérieur, bien sûr. On pourrait appeler ça la cité, hein, comme à Périgueux, par exemple, où il y a le même phénomène avec une toute petite cité, mais la cité, l'église de la cité, par exemple. Là, j'ai matérialisé l'amphithéâtre. Et puis, ce dont je voudrais vous parler... Alors, la flèche ici indique l'emplacement de Pasteur Saint-Cyprien. Alors, le site n'est pas localisé n'importe où. Ici encore, on peut évoquer la nature. Les rivières ont creusé des vallées qui sont très caractéristiques. Alors la Boivre, la vallée de la Boivre, c'est une vallée dont les flancs sont à peu près symétriques en coupe. Mais le Clain, c'est différent. Alors vous avez le Clain qui a un cours sinueux et qui a creusé une vallée de profil dissymétrique. C'est-à-dire d'un côté, vous avez un flanc abrupt et de l'autre côté, une pente plus douce. Et ça alterne. Et là, lorsque le Clain arrive ici, à proximité de Poitiers, vous avez un flanc abrupt du côté de l'avenue de la Libération et de Blossac. De l'autre côté, c'est le quartier des Sables, donc c'est plat. Puis ça va alterner ici. Vous allez voir apparaître ici les terrasses, ici les dunes, ici les couronneries. C'est sur la rive droite, hein, alors que sur la rive gauche, il y a une pente douce sur laquelle s'est installée la ville. Puis ça va encore alterner vers le nord, où vous allez avoir une falaise abrupte du côté du Porto, alors que dans l'hôpital des Champs, du côté de l'hôpital des Champs et au-delà, c'est plat. Puis ça continue comme ça. Alors ici, ça, c'est très important pour la compréhension de l'histoire de Poitiers, parce qu'au fond, lorsque les Romains, les Gaulois aussi sans doute, mais lorsque les Romains ont voulu développer une ville ici, il fallait ménager des accès et des sorties. Alors les accès sont très simples d'un côté, du côté du pédoncule, puisqu'on arrive de Saintes, et là, on arrive de plein pied, de l'extérieur vers l'intérieur. En revanche, dans toutes les autres directions, il faut descendre dans les vallées et remonter. Descendre dans les vallées et remonter, et surtout emprunter des endroits précis. Il ne s'agit pas de gravir les couronneries ou les dunes. Il faut emprunter ces vallées sèches qui sont ici. Bon, ces vallées sèches qui sont des vallées qui ont été créées par des cours d'eau affluents du Clain, mais des cours d'eau qui sont en dessous, qui ont disparu. Mais vallées sèches, par exemple, ici, le faubourg du Pont-Neuf, le faubourg du Pont-Neuf avec une double vallée, hein, celle qui correspond à la rue de la Pierre-Levée et l'autre qui correspond à la rue du faubourg du Pont-Neuf, la rue Basse d'ailleurs même, la rue Basse puisque c'était elle avant. Hein. Et puis vous avez Montbernage et puis vous en avez d'autres. Hein. Alors, les voies ont emprunté nécessairement ces lieux. Les voies qui sortaient de Poitiers ou qui permettaient d'y accéder, il fallait d'abord passer la rivière, le Clain, je ne parlerai pas de la Boivre. Il fallait passer la rivière, il y avait des ponts, on ne les a pas retrouvés, mais je n'imagine pas qu'il y ait eu des guets, seulement des guets, même si le Clain n'est pas une rivière redoutable. Il devait y avoir des ponts en bois, on n'en a pas retrouvé les traces. Il n'y en avait pas partout. Il y avait un pont à Rochereuil, à l'emplacement à peu près du pont de Rochereuil. Il y en avait un à l'emplacement du pont Joubert. Il y en avait un à l'emplacement du pont Saint-Cyprien. Le pont Neuf n'existait pas. Le pont Neuf, il date, et s'il s'appelle pont Neuf, c'est parce qu'il est très postérieur et il date de juste avant la Révolution. Alors j'ai matérialisé le peu que l'on sache des voies. Dans notre cas ici, vous avez une voie qui donc franchit, emprunte le pont Saint-Cyprien, qui ensuite passe sous ce coteau dit des terrasses, et qui va, alors elle peut bifurquer ici, à proximité de Pasteur, elle peut bifurquer pour prendre en pente douce la route qui va vers Saint-Benoît, et puis elle peut aller aussi, et elle va aussi, vers le faubourg du Pont-Neuf, où là, elle rejoint une autre voie qui vient du pont Joubert, et elle se dirige vers Bourges. Ça, c'était des voies obligatoires, obligées. Mais à Poitiers, il y a aussi des petits grippés qui permettent de grimper très rapidement sur les plateaux environnants, mais qui n'étaient pas empruntés, bien entendu, par des charrettes, mais par les piétons. Alors ces grippés s'appellent souvent des cueils. Les cueils, ça vient du latin collis, la colline. Alors il y a la cueille aiguë, dans le bas de Montbernage, qui monte ici. La cueille mirbalaise, du côté de la Boivre, hein, qui évite la route carrossable, en quelque sorte, passait par la roche, alors que la cueille mirbalaise montait de façon beaucoup plus abrupte. Et dans notre secteur, c'est la jambalane. La jambalane, c'est typiquement une cueille. Le nom est très postérieur. Il est lié à une légende que je ne rappellerai pas ici, on en pourra en reparler. Mais c'est vraiment très ancien, tracé. Alors, ce n'est pas une voie. C'était pas, il n'y avait pas une circulation démente. Là. Donc vous voyez que dans ce secteur, on a des voies qui partent en pente douce ou dans le fond de vallée, et puis cette cueille. Il faut prendre en compte aussi le problème du Clain et des risques d'inondation. Alors, c'est toujours difficile de savoir, je vais vous montrer d'autres plans, de savoir quelle était dans l'Antiquité la zone inondable. Mais enfin, on peut penser que c'était à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Alors, en général, les archéologues, dans le texte qu'ils ont donné, ont posé cette question, mais il n'y a pas sur les plans les limites de la zone inondable. Alors, je suis allé à la mairie pour demander. Il y a des plans extrêmement précis, puisque ce sont des risques qui sont pris en compte aujourd'hui par les urbanistes, et on peut voir exactement où étaient les zones inondables. Et en fait, les vestiges qu'on a trouvés dans le secteur de Pasteur sont en limite de zone inondable.
Bon, c'est jamais à l'abri totalement, mais c'est pas au bord du Klein. C'est pas vraiment au bord du Klein, c'est un petit peu en retrait. Alors, autre chose ici, autre chose d'important, le long des voies, il y avait des nécropoles. Dans tout le monde romain, on enterrait les morts hors de la ville. On dit c'est la loi des 12 tables chez les Romains, mais la loi des 12 tables, il devait y en avoir un peu partout. Enfin, en tout cas, cette règle a été répandue un peu partout dans le monde romain. Si bien que, alors, on enterrait les morts hors des villes et le long des voies. C'est le contraire du Moyen-Âge, bien sûr, où les tombes étaient dans la ville et sous les églises et autour des églises. Et c'est aussi très différent d'aujourd'hui, où les cimetières sont à l'extérieur, mais enfermés, clos. Ceci depuis l'époque de Louis XV. Dans l'Antiquité, on traversait les routes, traversait les cimetières, et ça, c'était pour que les vivants vivent avec les morts aussi, et les épitaphes, souvent, appellent le passant pour lui dire, voilà, arrête-toi, passant, prie pour moi. Enfin, non pas prie pour moi, mais prononce mon nom. Prononcer le nom de quelqu'un. Alors, ceux qui étaient assez riches pour avoir une épitaphe, évidemment, ils avaient droit à plus d'immortalité que les autres, d'une certaine façon. Alors, ce que j'ai matérialisé sur ce plan aussi, ce sont les nécropoles. Ici, alors ce sont les nuages, là, de petits points. Ici, vous avez une grande nécropole qui correspondait à la promenade de Blossac et au quartier de Saint-Hilaire. Ça allait jusque du côté de la rue Aliénor d'Aquitaine, de la tranchée à la rue Aliénor d'Aquitaine. C'est sans doute la plus ancienne nécropole, celle qui se trouvait sur l'oppidum. Puis après, comme la ville s'est étendue puis que la population a cru, on a enterré les gens plus loin. Alors, on les a enterrés, c'est pas trop bien, pendant longtemps on n'a pas su trop bien. La nécropole de Blossac-Saint-Hilaire, elle est bien connue à cause de Don Fontenot, parce que Don Fontenot a décrit, lorsqu'on a créé la promenade, le parc de Blossac, il décrit ça malheureusement pas suffisamment, mais il décrit les tombes qui ont été trouvées là. La deuxième étape, ça a été les fouilles des dunes, les fouilles du père de la Croix et du commandant Rothmann aux dunes. Les dunes, ça se trouve ici, d'un seul côté de la voie de Bourges, c'est-à-dire qu'on monte la rue de la Pierre-Levée, puis on a ce cimetière, et ce cimetière a été ensuite, il y a l'hypogée des dunes qui s'est raccroché, toujours dans une ambiance funéraire, je rappelle aussi que le dolmen qui est à côté est funéraire. Donc vous avez ça, et il y avait 400 tombes, plus je ne sais plus combien, qui ont été fouillées très récemment. Donc un ensemble, mais il y avait d'autres cimetières. Il y avait d'autres cimetières, vous voyez ici, que du côté de la Roche, il y avait un petit temple au-dessus de la vallée actuelle de la gare, il y avait des tombes, et il y avait même des tombes le long de la route de Nantes, dans un endroit les gens ne soupçonnent pas, mais au XIXe siècle, on a constaté la présence de tombes. Il y en avait sur la route de Tours, du côté de la rue du Planty, il y en avait, et il y en avait là. Il y en avait dans ce secteur de Saint-Cyprien, et en reprenant ce dossier, je me suis intéressé, j'ai fait une conférence il y a un certain nombre d'années sur Pasteur, je ne l'ai pas revisionné parce que j'ai dû raconter des bêtises. Enfin, en tout cas, je ne raconte plus la même chose aujourd'hui. Donc,
je suis désolé, là, j'interromps. Alors, voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord le...
On va revenir à l'Antiquité, mais comme tout ça se mélange... Je me suis amusé à réaliser des cartes à partir du cadastre. Cadastre ancien, cadastre actuel, des cartes successives. Alors d'abord, cadastre actuel. Alors vous voyez ici, le nord est un peu sur là, en haut à droite. De ce plan, vous voyez le Klein, vous voyez le pont Saint-Cyprien, le pont Neuf, la rue Basse, ici, la rue du Faubourg du pont Neuf, et ici, c'est la rue Pasteur. Et voici les bâtiments. Ça, en grisé, ce sont... Ah, merci. En grisé, ce sont les fouilles récentes et anciennes. Il y a eu grands ensembles de constatations archéologiques. Ici, à la fin du 19e siècle, dans les années 1870, et là, les fouilles de 2008. Ici, c'est la rue des Terrasses. Ancien cadastre. Vous voyez que ça s'est urbanisé. Ancien cadastre, on est complètement à la campagne. Pont Saint-Cyprien, celui d'autrefois, tout étroit. Pont-Neuf, celui d'autrefois aussi d'ailleurs, puisqu'il a été modifié. Rue du Faubourg de Pont-Neuf, rue Basse, et là il n'y a plus rien. Là, c'est l'emplacement de l'abbaye. Là, nous sommes en 1838, il y a un jardin botanique. C'est une des étapes du jardin botanique. Là, vous avez à l'intérieur du jardin botanique, je ne sais plus comment ça fonctionne, enfin, c'est un peu compliqué, mais il y a quelque chose qui est un peu plus serré. Ça, c'est la magnanerie. Et là, vous avez l'emplacement de ces vestiges que je viens d'indiquer, hein, 1873-2008. Et puis, j'ai mis les courbes de niveau. Alors, ce qui est typique, c'est qu'ici, nous sommes déjà dans un fond de vallée, mais le coteau monte tout de suite. Et au-dessus, il y a les terrasses. Alors, les terrasses, c'est récent comme nom. Autrefois, ça s'appelait la Chauvine. La Chauvine. Ça n'est plus du tout usité. C'est la Chauvine. Et donc, ça monte assez vite. Vous voyez, là, on est à 75 mètres ici. Là, on est à 110. Ça marche plus. Si, voilà, on est à 110, la courbe de niveau, 110. Et vous voyez comment ces courbes de niveau matérialisent tout ça. Et ici, eh bien, c'est le terrain vierge, avec, là encore, les vestiges. Alors, ce qui comporte des petits points, ce sont les zones inondables. En gros, à partir des documents actuels, j'ai représenté ici les zones inondables. Ça, ce sont les cours, bien sûr. Vous voyez ici, il y a encore les rues, bon, etc. Alors, première chose, on va aller rapidement. J'ai repris le dossier des nécropoles. C'est pas simple. Mais vous avez deux endroits où on a trouvé des tombes. Alors j'ai cru autrefois que, parce que certains l'avaient écrit, Monseigneur Cousseau, l'évêque d'Orléans au XIXe siècle, avait dit que Saint-Cyprien était construit parmi les tombeaux. Il n'y a absolument aucune preuve de cela. En revanche, au sud de la rue Pasteur, il y a des tombes. Alors la rue Pasteur, ça c'est très intéressant, la rue Pasteur, elle est très en surplomb par rapport au terrain de Pasteur, hein, l'ancienne rue des Incurables. Et donc, elle doit être hors de portée des inondations, et on pense que c'est là que passait la voie romaine. Bon, ce qui pose un problème quand même. Et alors, au XIXe siècle, on avait trouvé ici, dans ce terrain, un mausolée que l'on a fouillé. Alors, ce terrain s'appelle, sur le cadastre, le pré de la Bosse, ou le pré Bossé. C'était le terrain de M. Château à la fin du XIXe siècle, et on y a trouvé un mausolée. Bon. Première chose, alors ce mausolée, je peux vous le montrer. En tout cas, les relevés qui avaient été faits au XIXe siècle. Voilà. Vous avez ici le plan et la coupe en haut. Vous voyez, c'est assez respectable. L'échelle, ça donne 5 mètres ici. Donc, vous aviez une tour, une espèce de tour. Alors, tout ça raboté, bien entendu. Hein. Alors, si le champ s'appelle le pré-bossé ou le pré de la bosse, c'est probablement parce qu'il y avait des bosses ou une bosse, parce que le cultivateur, là, avait vu, ça poussait moins bien, etc. Et alors, quand on a creusé là-dedans, bien, on a trouvé, à l'intérieur de cette tour, ce caveau qui était voûté en berceau. Dans ce caveau, il n'y avait plus rien parce que ça avait été pillé, parce que ça, c'était des pilleurs de tombes qui avaient fracturé en quelque sorte cette enceinte, mais on avait entassé des crânes. On avait entassé des crânes, et vous voyez qu'autour de cette tour, eh bien, des squelettes étaient installés, des squelettes d'ailleurs, dont les dessins qui nous ont été donnés montrent que les têtes étaient protégées par des tuiles. Trois tuiles qui protégeaient les têtes. C'est difficile à dater, mais évidemment, c'est romain. Enfin, c'est d'époque romaine. c'est sans doute, enfin, en grande, peut-être dans le caveau, y avait-il des incinérations, des dépôts d'urnes avec des cendres, on ne sait pas, mais il y a aussi de l'inhumation. Ça, c'est un élément. Autre élément, maintenant. Donc là, nous sommes là, le long de la rue Pasteur, dans un endroit où des maisons ont été construites depuis. Hein, le Prébossé, ça n'existe plus. Autre endroit où on a trouvé des sépultures, là où se trouve la lettre B, c'est-à-dire en haut de la Jambalane. Alors, ça, c'est plus compliqué. On a des squelettes, et d'ailleurs, le musée possède quelques crânes. Il y a une étiquette, c'est M. Patte qui les avait étudiés. Il y a un article dans l'entre-deux-guerres là-dessus. Alors, je ne sais plus s'ils étaient dolichocéphales ou brachycéphales. Bon. Mais il n'y avait pas de mobilier. Mais ils disent, M. Ginot et Étienne Patte disent, c'est du haut Moyen-Âge. Moi, je ne sais pas trop. En revanche, ils disent où ça se trouvait. Et ça se trouvait dans un endroit, disent-ils, qui s'appelait les Couillaudes. Les Couillaudes, sur l'ancien cadastre, c'est exactement cet endroit-là. Et on a trouvé ces tombes quand on a percé une rue nouvelle, c'est la rue des Terrasses. La rue des Terrasses, donc, est sur un terrain, là où il y a la lettre B, ici, il y a une grande parcelle, qui était autrefois une parcelle en culture. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que le secteur était encore cultivé. C'est-à-dire, quand on approchait de la Jambalane, il n'y a pas si longtemps, on voyait les blés et Poitiers au-dessus. C'est une chose qui est en train de disparaître totalement. Hein. On allait chercher du lait, pas loin. Là. Et donc, il y avait des tombes ici. Alors, moi, ce que je pense, il y a d'autres éléments. Hein. Les moines de l'abbaye de Saint-Cyprien ont dit, à un moment donné, en particulier Dom Mazé, qui est juste antérieur à la Révolution, dit qu'on a trouvé pas loin de Saint-Cyprien, ou en face Saint-Cyprien, c'est-à-dire de l'autre côté de la rue, on a trouvé des coffres funéraires, des coffres à incinération, et en pierre. Et Beauménil, qui était un acteur faussaire, mais il ne faisait pas que des faux dessins, Beauménil a dessiné ces coffres. Et ils sont suffisamment intéressants, enfin suffisamment réalistes, pour qu'on pense que c'était vrai. Il y a 3-4 coffres comme ça, cinéraires, enfin, qui contenaient des urnes, qui avaient contenu des urnes, et qui ont été dessinés par lui. Ils ont disparu, mais ça venait aussi du secteur. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y avait évidemment des tombes le long de cette route romaine ici, et aussi que là, il y avait sans doute un développement peut-être plus tardif de cimetière, parce qu'on a une topographie qui est un peu la même qu'à... Alors, on pourrait poser la question pour les dunes, si vous voulez. Quand on est sorti de l'oppidum, il a fallu installer les tombes, on les a installées dans les bas de vallée, à l'abri des inondations, puis après, on est monté sur les plateaux. Aux dunes, on est déjà sur le plateau, mais il ne serait pas étonnant qu'en bas, du côté de Saint-Saturnin, il y ait eu aussi des tombes. On ne les a pas trouvées, mais c'est une espèce de logique, la même logique que les cueils, etc. Vous voyez, c'est la topographie qui s'impose, en quelque sorte. Alors maintenant, à l'emplacement du monastère lui-même. On ramasse depuis, je m'intéresse beaucoup aux collectionneurs du XIXe siècle, et sans arrêt, ils vont ramasser des objets, soit des monnaies, soit des vases. On signale ça, alors c'est tantôt dans la caserne, enfin dans l'établissement des Dominicains, avant c'est les Bénédictins, où ils disent les anciens Bénédictins, enfin, mais on voit toujours. Mais c'est du ramassage, on ne peut pas dire que ce sont des tombes, c'est du ramassage, et il y avait un habitat. Les fouilles, plusieurs, alors les deux vagues de fouilles en quelque sorte le montrent. La première vague en quelque sorte, c'est 1873. Alors en 1873, les Dominicains font des travaux. Je n'ai pas très bien compris parce qu'ils font des travaux à un endroit où ils n'ont rien construit. Mais bon, sans doute pour aménager leur jardin. Et un archéologue parmi les grands de la Société des Antiquaires de l'Ouest de l'époque, Alphonse Le Touzé de Longmar, est venu. Puis il est arrivé un peu tard parce que les Dominicains avaient détruit un certain nombre de choses, mais il a relevé. Il a relevé des structures. Et puis le père Delacroix est venu lui aussi, c'était ses débuts, 1873. Et d'ailleurs, Longmar a publié un article avec un plan, mais j'ai retrouvé aux archives, dans les notes du père Delacroix, un plan exécuté par le père Delacroix, un plan moins artistique, plus technique. Évidemment, ce sont les mêmes structures. Et puis 2008, donc tout près de ces vestiges de 1873, les découvertes, les fouilles récentes. Moins spectaculaires, à vrai dire. Alors tout de suite, il y a quelque chose moi, qui m'intrigue, c'est que dans les fouilles de Longmar, il y avait une voie, mais une vraie voie, 7,50 m de large. 7,50 m de large pour l'Antiquité, c'est une vraie voie, avec des dalles. Et les fouilles de 2008 ont trouvé aussi une voie, et quand on recale les deux, on voit que ça pourrait être la même. Sauf que les fouilles récentes considèrent que cette voie est un cul-de-sac, qu'elle ne se prolonge pas, alors que ça ne m'étonnerait pas, moi, qu'elle se prolonge. Et je me pose la question de savoir si ce n'est pas la voie romaine primitive qui se serait déplacée plus tard. Mais là, je pose des questions. Je pose des questions. Alors, je vous montre ce qu'a découvert Longmar. Alors, ça ne va pas être d'une qualité extraordinaire, puisque c'est un grand plan qui a été réduit, publié dans les bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest. Voici le dessin de Longmar. Vous voyez ici la voie. Alors, l'orientation n'est pas la même que sur mes cartes, hein, puisque le nord est là. La voie. Et vous voyez, là, ce sont des coupes. Hein, et vous voyez ici des structures fort compliquées, qui montrent que nous avons affaire à un établissement, on va dire, thermal. Vous voyez, il y a une sorte de tour ronde avec tous ces petits points ici, ce sont des pilettes d'hypocauste, vous savez, qu'on chauffait par-dessous le sol. Et il y a là un bâtiment au plan complexe, c'est de l'architecture vraiment savante, avec aussi un système de chauffage fort savant. Alors, lors de la découverte, alors j'ai repris le plan que le père de la Croix a levé. Le voici, repris, redessiné. Vous voyez ici la voie, et puis les structures que vous venez de voir sur la reconstitution de Longmar. Bon, grosse discussion à l'époque de Longmar, il a trouvé que ce bâtiment-là n'avait été de bien meilleure qualité que celui-là, alors il dit ça c'est romain, puis il dit ça c'est du haut Moyen-Âge. C'est exclu que ça soit du haut Moyen-Âge, tout ça est romain, mais sans doute de phases différentes de construction. Et c'est fort savant. Alors, je ne peux pas vous en parler longuement, parce que je ne suis pas spécialiste de cette architecture, mais j'ai demandé au meilleur spécialiste, Alain Bouet, de me donner son avis, et il a commencé tout de suite à tilter devant ses plans en disant, alors, quand on a une salle ronde comme ça, ça peut être souvent une étuve, un laconicum, où la chaleur est la plus forte, hein. Et lui, il a des idées, et peut-être va-t-il dater ça. Je suis incapable de dire si c'est du 1er ou du 3e siècle, j'en sais rien. Ou d'au-delà, je n'en sais rien vraiment. Voici ce que le Touzet de Longmar avait proposé aussi comme petit croquis. Il y a à Poitiers un certain nombre de documents qui traînent. Ça n'a pas été publié. Une partie seulement a été publiée. Ce qui est intéressant dans ce dessin, c'est qu'il a situé la magnanerie. Donc vous avez la voie ici. Les dominicains possèdent des aquarelles de Longmar représentant ça. Ce ne sont pas des aquarelles d'une qualité artistique extraordinaire, mais c'est sur le plan documentaire. Alors vous voyez les deux bâtiments, l'espèce de tour ronde avec des chaînages de briques, etc. Tout ça parle aux spécialistes, hein, pas à moi, mais aux spécialistes d'architecture. Bon. Et alors en fait, les fouilles qu'on a menées en 2008, elles sont juste au-delà, entre la magnanerie et ici. C'est tout près.
Aux découvertes les plus récentes.
Alors, tout de suite, je vous signale que les découvertes les plus récentes sont beaucoup moins spectaculaires que ça, mais elles sont beaucoup mieux documentées, parce que là, les archéologues sont venus avec leurs méthodes, etc. En fait, y a un rapport de fouilles de 5 volumes qui pèse je ne sais plus combien de kilos, enfin, pour les fouilles récentes. En réalité, ce que l'on a trouvé tout près, ce sont des vestiges. Alors, il y a des vestiges médiévaux, je ne vous en parlerai pas trop, bien que dans le PowerPoint, vous allez voir apparaître quelques éléments. Et puis, il y a des vestiges romains. Alors, les vestiges romains sont beaucoup moins importants et impressionnant que ceux que je viens de vous montrer, mais tout de même, il s'agit de faire fonctionner ça ensemble, de voir comment ça marche. Comment ça fonctionne ? Alors voilà, ça c'est le montage que Bruno Zelli, le responsable des fouilles, a fait. Je ne vais pas vous le commenter dans le détail. Là, c'est la page de garde où vous avez des vestiges romains à gauche et ici, c'est le pigeonnier. Le pigeonnier, je n'ai même pas songé à relever s'il était... Oui, il est de la fin du Moyen-Âge. Pigeonnier qui veut dire qu'on a affaire à un seigneur ecclésiastique. Là, l'abbaye à droite pigeonnier, etc. Hein. Donc, alors... Bon, ça, c'est une photo. J'aurais pu la montrer au début, mais comme je n'ai pas fait le mélange, ça, c'est la photo qui montre l'ensemble avec la rue Pasteur, son dénivelé ici. Et puis là, entouré de rouge, c'est l'endroit où on a fouillé. L'endroit où on a fouillé. Et vous voyez le cours du Clain ici. Le pont Saint-Cyprien, on ne le voit pas, mais on le devine. Bon. Et la magnanerie ici. Là, vous retrouvez ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Vous avez ici, dans le portefeuille de Guénière, la représentation de l'abbaye bénédictine, reconstruite, parce qu'on vous en parlera dans les conférences qui viendront, bien sûr. Là, vous voyez la source ou la fontaine Saint-Cyprien. Il y avait une arcade et on voit l'exutoire de cette fontaine. Et puis les bâtiments avec ce fameux... On ne sait pas ce que c'est. Certains disent des cuisines monastiques, d'autres disent un ossuaire, d'autres disent. Bon, il faudrait étudier ça de près. C'est quelque chose, évidemment, d'impressionnant. Bien. Alors, les vestiges que j'évoque, ils sont dans les terrains à côté, bien sûr, hein, à gauche de cette gravure. Voilà. Ici, c'est une représentation. Alors. Le siège de Poitiers de 1569 est un moment important puisque l'abbaye qui existait à l'époque, bien sûr, a subi de très graves dommages. Donc là, vous avez les protestants, les troupes de Coligny, tout ça, qui assiègent Poitiers et qui canonnent. Hein, on voit les murs en face de la ville qui s'écroulent ici. Hein, et puis, on voit l'abbaye qui est sacrifiée. Hein, après, elle sera évidemment rebâtie. Alors, voilà un... Évidemment, un relevé compliqué, mais ce qui est en rouge, c'est romain. Ce qui est en rouge, c'est romain, et ce qui est en brun ici, c'est la voie. Alors, là où on peut se poser des questions, je vais demander à Bruno Zelli un peu, bon, il fait avec ce qu'il a constaté, mais lui, il pense que ça s'arrête là. Mais en réalité, la voie de Delongmar, elle est là. Elle a la même largeur. Alors, bon. Alors, vous voyez, il y a deux ensembles. Il y a deux ensembles que je ne vais pas entrer dans le détail. C'est de l'habitat. Alors, il y a quelques salles qui sont chauffées avec des pilettes. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des thermes. Parce que les gens qui avaient un peu de fortune avaient toujours une pièce qui chauffait, etc. Hein. Donc, ils sont séparés par une certaine distance. Là, évidemment, c'est le pigeonnier. C'est l'emplacement du pigeonnier. Là, tout ce qui n'est pas rouge, c'est postérieur. Vous voyez, il y a des murs médiévaux qui ont empiété sur la voie, etc. Ici, voilà dans quel état on trouve tout ça. Alors, je suis mal placé pour vous en parler. L'archéologue vous en parlerait mieux que moi. Là, il y aurait un foyer ici. Hein. Vous voyez ici, il y a un foyer, une cheminée, etc. On voit comment ça fonctionne. Et puis, certaines de ces pièces avaient un... vous voyez, ici, c'est un petit peu... Bon, là, ça devient aussi technique. Je vais passer. Voilà. Je vais essayer de chercher des choses. Voilà. Il y avait des pièces avec des peintures murales. Alors, la personne qui s'est livrée à l'étude des peintures murales fait des rapprochements avec Pompéi, mais enfin... Bon. Oui, parce qu'on fait toujours des rapprochements avec Pompéi. Mais ici, c'était pas quand même tout à fait Pompéi, mais quand même, vous voyez, il y a des peintures avec des feuillages, quand même, hein. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Alors, vous voyez ici, je ne sais plus ce qu'on voit, là aussi, des foyers. Alors, tous les dispositifs de chauffage, parce que quand on, les archéologues n'ont pas besoin d'avoir les salles intactes, dès qu'ils trouvent certains éléments, ils disent, ça, ce sont des termes. Bon, il y a les pilettes ici. Vous avez ces pilettes, ça, ça ne trompe personne, puis c'est noirci par le feu. Puis vous pouvez avoir, là, on en voit encore, hein, des briques, puis vous pouvez avoir aussi des restes tout à fait caractéristiques qui servaient à aménager les murs pour faire monter la chaleur dans les murs. Donc ce sont soit des tuiles, on a des tégulés mammatés, c'est-à-dire des tuiles avec des mamelles, c'est-à-dire des tuiles avec des petites protubérances qui font qu'elles ne collaient pas contre le mur, mais qu'il y avait un espace derrière. Des bobines aussi qui servaient à écarter les murs, enfin à maintenir la distance entre deux parois pour que l'air circule à l'intérieur. Voilà, un schéma qui vous montre. Alors ces bobines, les voilà. Alors quand on trouve ça dans un champ, c'est sûr qu'il y avait des pièces chauffées. Je ne dis pas des thermes, mais des pièces chauffées. Et vous voyez comment ça fonctionne, les bobines qui séparent les murs. Ça, ce sont des éléments en terre cuite creux, où l'air chaud pouvait circuler. Ça, ce sont des tuiles, enfin des briques avec une certaine forme, on les associait, et ça laissait passage au milieu. On ne mettait pas de ciment au milieu, bien sûr, on laissait passer, on les mettait les unes au-dessus des autres. Ça permettait à la chaleur de circuler. Alors, voici encore d'autres choses, mais tout ça, voilà. Ça, c'est la voie. Ici. Ça, c'est la voie. D'ailleurs, avec... Alors, ici, c'est un tuyau moderne, mais on a trouvé des traces d'alimentation en eau. Alors, ce ne sont pas, en général, ce ne sont pas des tuyaux de plomb, mais ce sont des tuyaux de bois. Le bois a pourri, mais il y a encore les frettes, les anneaux de métal qui servaient à fixer les troncs creusés dans le prolongement l'un de l'autre. Bon, voici encore d'autres. Voilà. Alors, voilà. Alors, ça, c'est une hypothèse de reconstitution. Mais c'est une hypothèse. C'est-à-dire que les fouilleurs ont trouvé ça et ça. Et ils imaginent qu'il y avait une ville là avec un plan comme ça. Pourquoi pas, mais pourquoi pas non. Et vous voyez le cul-de-sac. Hein ? Alors, hypothèse là encore, pourquoi pas une auberge avec la rue qui arrive, la voie qui arrive, et puis on décharge là, puis on repart. Mais n'oubliez jamais qu'ici, il y a la même voie, à peu près, enfin quelque chose qui lui ressemble, qui repart ici. Donc, quelque chose qui m'échappe un peu, mais bon. Là, après, c'est le Moyen-Âge, mais c'est intéressant. C'est intéressant, je ne vais pas le commenter. Ici, des restes d'un hôtel, ça, cette petite plaque là, en haut, émaillée, vient d'un devant d'hôtel, provient d'un devant d'hôtel. Puis là, alors, il y a les latrines des moines, c'est assez rigolo parce qu'ils ont fait une coupe où ils représentent les moines. Parce qu'il y a deux étages. Hein. Il y a deux étages. Donc, vous voyez, on a le fond des latrines, voilà. Ça, c'est le pigeonnier. Voilà. Bon, mais ça, c'est en dehors de ma période. Puis ça, c'est le plan d'ensemble avec... Enfin, je ne vais pas le commenter non plus dans le détail. Alors, la question qui se pose, puis je terminerai là-dessus. Je ne sais pas si j'abuse du temps ou pas, je ne minute pas. Je terminerai là-dessus. S'il y a des termes... Alors, problème. Les bâtiments et les termes à côté, c'est privé ou c'est public ? Bon, là encore, c'est le spécialiste que j'évoquais tout à l'heure qui, à partir des mesures, des dimensions, pourra dire, bon, ça c'est important, c'est quelque chose de public. Moi, j'ai bien l'impression que ce que de Longmar a trouvé, c'est quelque chose qui dépasse un peu le cadre d'un propriétaire aussi fortuné soit-il. Et puis l'eau. Il faut de l'eau pour des thermes. Parce que si on a des salles chauffées d'un côté, dans la partie fouillée récemment, dans la partie que de Longmar a fouillée, il y avait des conduits. Alors, peut-être pas des aqueducs, mais des exutoires, quelque chose qui emportait l'eau vers le clin. Il fallait alimenter en eau. Alors, si vous voulez, pour avoir de l'eau ici, on ne peut pas utiliser les aqueducs de Poitiers. Parce que les trois aqueducs de Poitiers viennent du sud-ouest et convergent vers la tranchée et alimentent l'oppidum. Si vous voulez avoir de l'eau des aqueducs, il faut... passer par-dessus le clin, donc faire un pont du Gard. Ou en tout cas quelque chose qui est un pont aqueduc. On n'en a absolument aucune trace. La seule solution, c'est qu'il y ait eu une ou des sources. Le fait que la source Saint-Cyprien ait existé, elle est un peu basse. Mais si vous voulez, c'est de l'eau qui vient de loin, qui vient des vallées sèches, qui vient d'en dessous. Il ne serait pas étonnant qu'il y ait eu un captage d'une de ces sources du côté du faubourg du Pont-Neuf ou du côté de la Jean-Balane pour alimenter en eau ceci. Et d'autre part, et si c'était un sanctuaire des eaux ? Alors c'est le fait que la source Saint-Cyprien existe parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, là je n'ai pas beaucoup de biscuits derrière moi, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à une christianisation d'une source païenne, et il y a une légende. Il y a la légende de Saint-Simplicien. Alors, ça traîne un peu partout dans la littérature locale. Je ne sais pas à quand exactement ça remonte. Mais Saint-Simplicien, vous savez qu'il y a un petit bourg, il y avait un petit quartier Saint-Simplicien, là, qui est encore une espèce de campagne. Si on enlevait les poubelles pour mettre le verre, ça serait joli. Et donc, cette petite place de campagne, là, Saint-Simplicien. Alors, l'histoire de Saint-Simplicien, c'est simple. De Cherger la raconte. Saint-Simplicien va se faire baptiser à la source Saint-Cyprien. Puis en revenant, en passant le pont, il rencontre son père, qui est évidemment le gouverneur du pays, qui lui dit, tu t'es fait baptiser. Alors il est furieux, il lui intime l'ordre de revenir au paganisme. Le fils ne veut pas, on lui coupe la tête. Et sa tête tombe dans un pré et ça fait un trou. Et les gens, pendant des siècles, sont venus mettre leur tête dans le trou de Saint-Simplicien. Mais un jour, alors probablement au XIXe siècle, un évêque a mis de l'ordre et a supprimé le pèlerinage. Et on dit que ce trou se trouvait dans une île sur le pont Saint-Cyprien, c'est-à-dire un endroit où il n'y a plus d'île, mais un endroit où à peu près où il y a une station-service, vous voyez, à peu près dans ce secteur-là. Moi, je me demande si, parce que ça expliquerait un certain nombre de choses, là. Dans les bas, vous savez, l'alimentation en eau de Poitiers, ça a toujours été compliqué, mais il y a des sources dans les bas, dans les fonds de vallée, sinon c'est des puits, hein, ou alors il faut monter l'eau de la rivière. Je me demande si là, il n'y avait pas, on a d'autres exemples, le long du Clain d'ailleurs même, hein. On a un exemple à La Folie, du côté de la Rocade, où il y a une fontaine Saint-Macou, autour de laquelle on a trouvé des vestiges romains aussi. Je me demande si ce n'est pas un sanctuaire, enfin quelque chose, un sanctuaire des eaux, très ancien, qui aurait été donc romain, et puis ensuite qui aurait été christianisé, de l'eau qui aurait été utilisée pour ces termes, comme à Sancey, si vous voulez, hein, culte des eaux. Il n'est pas nécessaire que ce soit des eaux curatives. Toutes les eaux étaient curatives, en quelque sorte. Hein. Voilà, miraculeuses, en quelque sorte. Moi, c'est tout ce que l'antiquiste ou l'antiquisant peut dire là-dessus. Simplement, si je peux quand même essayer de dater. Les archéologues ont fourni, ceux de 2008, ont fourni des dates. Tous ces vestiges, ils s'échelonnent entre le 1er siècle et le 3e siècle. Et au 3e siècle, il y a un incendie assez important. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et il semble, mais là aussi, ça reste à prouver, il semble qu'on soit resté 7 siècles sans rien installer à l'emplacement. Peut-être d'autres fouilles, puisque des travaux sont encore prévisibles sur le secteur, peut-être y aura-t-il des découvertes dans l'avenir qui nous éclaireront sur cette question. Voilà, je vous remercie. Ah non, mais Brottier de Relière, non, c'est pas lui que... Non, c'est pas possible, ça. Mais non, mais ça, c'est comme Sainte-Loubette, c'est comme toutes ces histoires, qui sont des histoires très anciennes, mais qui, en général, quand on creuse, ils ne remontent pas plus haut que le 11e et encore. Ce sont des histoires qui expliquent un certain nombre de choses, donc ça ne peut pas être... De toute façon, le père de si Saint-Simplicien a existé, je vais être très voltairien, s'il a existé... il n'avait pas un père gouverneur du pays, enfin ça ne veut rien dire. Mais ces histoires-là, il y en a un peu partout. Hein. De même que Saint-Cyprien, c'est probablement Saint-Cyprien, alors si je me souviens bien, c'est un saint italien. On a retrouvé, on peut dater d'ailleurs, il me semble que c'est près de 1000 ans. On a retrouvé, on peut dater vraiment la redécouverte, enfin, l'identification entre guillemets des restes, mais il y a des textes poitevins qui disent que Saint-Cyprien, c'est un Saint-Cyprien local, bien entendu, qu'il a été martyrisé je ne sais où. Oui, c'est ça. Mais Saint-Savin et Saint-Cyprien, ça marche toujours ensemble, en effet. Et il y a d'autres vocables en France et qui sont liés probablement à, Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est dans la région de Milan qu'on les a retrouvés. Alors ça, ces nouvelles circulaient, hein, et les vocables s'installaient. Et on ne reculait pas devant la création d'une histoire, hein, d'une belle histoire, ou d'une histoire horrible, qui racontait la mort de ces vénérables personnes.
Oui, je voulais juste vous poser une petite question concernant la substruction octogonale que l'on voyait lors des fouilles de 2008. Qu'est-ce que c'était finalement ? C'est le pigeonnier, hein ? Voilà.
Vas-y.
Dès qu'on ne sait pas trop, en général, on dit que c'est religieux. Quitte à être un peu provocateur, le site quand même ne pourrait pas être quand même le site d'une villa reliée à un intérêt économique à proximité de la vallée.
Peut-être.
Avec. Oui. Ce qui expliquerait aussi la partie de la rue donnant accès à la villa elle-même, permettant l'exploitation
oui,
du
mais,
site. Mais bon.
Mais si on était riche, on aurait fouillé à côté, alors qu'on n'avait pas besoin de fouiller à côté, évidemment. Donc il nous échappe toute une partie d'un site. Voilà.
Il y avait un secteur quand même qui était assez riche dans la vallée, quoi. Les fonds de vallée étaient riches.
Oui. Peut-être. Tout à fait. Non, moi j'ai rêvé devant vous, avec vous. C'est une hypothèse. Alors il y a du mobilier qui est conservé au musée de Poitiers, qui provient des fouilles de Longuemare. Parce qu'il y avait des éléments en forme de poisson, des sculptures en forme de poisson, mais un décor de terme, hein, de terme. Et puis, voilà.
Dans ce que tu as lu sur les fouilles de Longuemare, pourquoi il a fouillé à cet endroit-là ? Alors, si j'ai bien compris, on est exactement à la limite.
Oui, c'est ça.
Ils n'ont pas pu aller plus loin.
Non, ils n'ont pas été. Alors. Bruno Zelli s'est posé des questions parce que le terrain des incurables a changé. Il y a eu une petite modification, un accroissement, je ne sais plus quoi. Alors, il ne savait pas trop où situer les fouilles de Longuemare, sauf que si on les place trop près de ces fouilles à lui, en 2008, il les aurait trouvées. Or, il n'a rien trouvé. C'est donc un petit peu plus loin. Mais la voie, dans chaque cas, c'est au même endroit. Parce que de Longuemare donne la distance, par exemple, entre la voie et la rue des incurables. De son temps, c'était la rue des Incurables. Il donne la distance, 47 mètres, etc. Donc j'ai repris le plan et ça se place exactement au bon endroit. Enfin, c'est pas. Et là, il n'invente rien. D'autant qu'il avait le père de la Croix derrière lui, qui avait le compas dans l'œil.
Est-ce que tu pourrais préciser à quelle date apparaissent les premiers bâtiments religieux ?
Je ne sais plus où il est. Voilà. Les premiers bâtiments religieux, oui. Alors là, je ne suis pas compétent, mais les textes... Alors, l'histoire de la fondation au 9e siècle, hein, c'est au 9e siècle, mais ce n'est pas les bâtiments, c'est l'histoire de la fondation. Mmh. Mais ça, ceux qui viendront après moi en parleront. Mais si j'ai bien compris, ce ne sont pas des textes contemporains de l'époque carolingienne. Mmh. Mmh. C'est un récit postérieur.
Oui, parce que ce que je peux te dire, c'est qu'on a trouvé quand même des sépultures... Dû au Moyen-Âge, hein,
où
à cet endroit-là.
À cet endroit...
Ah oui, à l'abbaye.
À l'abbaye.
Oui. Il y en a même encore invisible parce qu'il est au 102 Grand Rue.
Mais dû au Moyen-Âge, ça veut dire donc...
Dû au Moyen-Âge.
Ah oui, mais ça, je ne le connais pas.
Le sarcophage a été sorti par des travaux.
Voilà.
Et on l'a récupéré à cette époque-là. Et il est visible encore.
Voilà.
Et bon,
il
est forcément dû au Moyen-Âge. Alors, est-ce que c'est 6e ou que c'est 9e, je ne sais pas. Mais il y a quand même une présence.
D'accord.
Or, des sépultures au Moyen-Âge accompagne en général, comme tu l'as dit tout à l'heure, des bâtiments religieux.
C'est ça.
On n'est plus du tout dans le contexte romain des sépultures.
Oui, parce que la question qui se pose quand on trouve des ossements, enfin des sépultures à inhumation, par exemple, du Moyen-Âge, comme dans le cas des Couillaudes, là, en haut, du côté des terrasses, là, c'est qu'il n'y a aucune église, ni chapelle. Donc il faut qu'il y ait là... c'est pour ça que j'ai tendance à croire que c'est plutôt une extension d'une nécropole romaine, même tardive, d'ailleurs, mais c'est pas chrétien, quoi. Voilà. Comme aux dunes, d'ailleurs, hein, où l'hypogée s'est installée. L'hypogée en soi, c'est un lieu de culte, mais en même temps, il y a Saint-Saturnin en dessous. Voilà. Ça, c'est une question qui se pose. Saint-Saturnin, c'est. Vous voyez où c'est ? Oui. Là, il y a le petit grippé, justement, qui est peut-être aussi une espèce de cueil qui monte aux dunes, derrière. directement derrière, un raccourci.
Avant l'époque 900, avant 900.
Oui, 900.
Par contre, il y a la légende de la petite chapelle de Notre-Dame de la Chauvine,
alors,
qui remonterait donc entre le 6e et le 9e siècle, mais là, on n'a jamais pu faire la preuve de cette chapelle.
Oui, mais je n'ai pas trouvé la source de Notre-Dame de la Chauvine.
Je,
oui.
Je l'ai pas, lu.
Oui, mais
je
sais
bien.
Je
sais pas d'où ça
oui,
vient.
Mais voilà.
Les sépultures viennent de pasteurs, à côté des grands bâtiments.
C'est ça.
D'entrée.
Oui, c'est ça.
Parce que les travaux les avaient sortis. Et donc,
eh ben voilà une.
La sépulture est visible. Hein,
voilà,
toujours,
oui.
Voilà,
d'accord.
De grandes rues, c'est entre, disons, 6e, 9e. Hein.
Alors, mon successeur, c'est M. Favreau. Je ne sais pas s'il abordera ces questions archéologiques. Le saucissonnage chronologique fait que moi, je n'en parle pas, mais on peut. On est preneur, évidemment. Il y a du mobilier dans ces sépultures ? Non. Mais c'est la forme des sarcophages. Ah oui, sans. Ah oui, 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 d'accord. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les fouilles quoi d'Argirol C'est un sondage. Il y a eu plusieurs sondages ou plusieurs fouilles, effectivement, mais qui sont assez discrètes dans la bibliographie. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Oui.
Oui. Il y a je ne sais pas combien de références sur les monnaies, donc moi, tant que je t'ai sous la main, et si on dépasse un petit peu le stade de Pasteur, qu'est-ce qu'on trouve comme pièce gallo-romaine dans ce secteur ou proche de ce secteur ?
Tout ce qu'on veut, mais alors justement, ça m'y fait penser, on a trouvé, alors je crois que dans le Pré-Bossé, on a dû, parce que Bélis, il y a eu au moment de la fouille par Longmar un dialogue entre Bélisaire Ledin, qui était un érudit du 19e siècle, qui a contesté les datations de Longmar, et puis Bélisaire Ledin est allé rechercher dans les affiches du Poitou, qui étaient des premiers journaux de Poitiers, du 18e siècle, des notes, et il a trouvé qu'on avait découvert un petit caveau avec des monnaies qui auraient été soi-disant en or, mais ça je me méfie toujours parce que le laiton des sesterces, ça ressemble beaucoup à de l'or. En revanche, sur l'emplacement du jardin botanique, c'est-à-dire à l'endroit de Saint-Cyprien, on a trouvé un trésor, là encore c'est une mention ancienne, mais un trésor de monnaie de Postumus, 3e siècle. Mais voilà. Et des monnaies, les érudits du 19e, on en a ramassé, je ne dirais pas par centaines, mais il y en a. Voilà. Et alors la monnaie, évidemment, ça n'est jamais que ce que les gens ont perdu et pas récupéré, ça peut être des choses, voilà. Mais là, je ne peux pas répondre dans le détail à ça. Puis plus je vais, moins je pense que les monnaies sont des fossiles directeurs absolus. Non, c'est pas. Mais c'est intéressant parce que ça prouve qu'il y avait du monde. Mais là, il y a des monnaies, en effet, trouvées là. En revanche, il n'y en a pas sur. Alors, en haut. Alors, on se prend évidemment, on regrette beaucoup qu'on ne soit pas là au moment où on a créé la rue des Terrasses parce qu'on serait là en train de regarder si, par hasard, quand on a construit toutes les maisons qui sont tout le long, il n'y avait pas des découvertes. Vers le débouché de la. Ils ont des noms bizarres dans le coin, hein, la rue de la Brouette du Vinaigrier, la rue de la Jambalane, etc. Voilà. Et peut-être on pourrait reconstituer ce paysage par imagerie de synthèse pour recréer cet aspect agreste de ce coin qui n'est pas si ancien, qui est en train de disparaître peu à peu parce qu'il y a des, si j'ai bien compris, des constructions imposantes qui se préparent. Oui.
Peut-être que je me trompe, mais le patronat Saint-Joseph de la rue des Feuillants déménage donc et va être construit aux terrasses.
Ah oui, au stade ?
Au stade des terrasses, près du stade des terrasses. Donc là, il y aura un moment donné, alors je ne sais pas à quelle époque, mais dans les mois qui viennent, je pense, il y aura des constructions dans ce secteur-là. Donc,
il y aura peut-être
à suivre de près.
Bon, alors, en revanche, il y a eu un diagnostic archéologique en haut de la Jambalane. Mais de l'autre côté des Couillaudes, du côté, là, il y a un petit bosquet au-dessus de Beaucite. Et de l'autre côté, on prépare la construction de plusieurs bars de construction écologique, mais des bars quand même. Et là, il y a eu des sondages et il n'y a rien. Alors que c'est dans une situation où on aurait pu imaginer ou espérer que, mais après tout...
Merci à vous.
Je voudrais savoir s'il y a des traces d'activité batelière ici ou ailleurs au bord du Clain antique.
Vous voulez dire des bateaux ? Non, on n'a pas trouvé de bateau.
On devine qu'il y a peut-être eu...
Oui, il y avait probablement... certains ont écrit qu'il y avait un port, je ne sais pas où, mais la navigation sur le Clain n'a jamais été sans doute très développée. Mais on pouvait naviguer, parce que ce qui rend la navigation difficile, ce sont les moulins et les chaussées de moulins, quand ça a été construit ensuite. Mais sinon... c'est pas une ville qui comportait un véritable port. On devait utiliser les barques, quoi, pour transporter. Oui, sûrement, pour aller de la région de Châtellerault à Poitiers, ou etc. Bien sûr. Et puis, alors, je n'imagine pas qu'on avait déjà le projet de canaliser le Clain pour rejoindre la Sèvre Niortaise, qui est un serpent de mer de l'histoire fluviale du Poitou. Dans l'Antiquité, on ne sait rien, on n'a pas de texte, hein. On n'a rien. On n'a pas d'inscription, là. Si jamais on trouvait un bout d'inscription qui évoque un dieu ou je ne sais quoi, là j'aurais raison pour l'établissement thermal. Mais vous savez, à Sancerre, on n'a pas d'inscription non plus. Enfin, si, on a un bout d'inscription avec P-O-L, Paul pour Apollon, sans doute.
Écoutez, merci à vous. Merci à vous de cette présentation. Et puis, merci au public d'avoir été présent. Je vous rappelle que le 21 octobre, nous aurons notre deuxième jeudi de Pasteur avec, vous avez peut-être vu le programme, je vais essayer de le lire dans le bon sens, avec M. Favreau, qui sera le conférencier, Heure et malheur de l'abbaye Saint-Cyprien de Poitiers. Merci et bonne soirée.